Philosophie du vivant, Père Philippe, 22 mai 1984, Saint-Joseph.
Est-ce que la distinction d'Aristote de l'intellect en puissance capable de toute chose et l'intellect en acte qui rend raison des deux opérations intellectuelles que nous sommes en train d'étudier, l'intellect en puissance de toute chose est ainsi principe de toute appréhension quiditative, de toute appréhension quiditative des réalités existantes, sans donner pour autant une idée de l'unité de l'être. Et l'intellect agent juge les choses en fonction d'elles-mêmes, en tant qu'elles sont réalisées en lui par l'appréhension. Mais l'intellect agent joue un rôle dans l'opération d'appréhension elle-même. Et on va voir ça, parce que c'est un peu mélangé, ça. Bon, je vais le laisser, puis on verra après l'explication qu'on aura donnée. L'unité du jugement ne provient-elle que de l'appréhension? Ou bien faut-il distinguer une unité fondamentale qui sera fondée sur l'appréhension et une unité ultime qui sera l'existé de la réalité, que le jugement atteint comme son objet propre et lui confère sa perfection? L'unité du jugement provient du jugement et non pas de l'appréhension, puisque l'appréhension est un élément. L'élément ne peut jamais rendre compte de l'unité. C'est un élément de composition. L'unité du jugement provient de la réalité elle-même connue et atteinte. Et l'appréhension est un élément qui permet d'atteindre la réalité. Mais ce n'est pas l'appréhension qui donne l'unité du jugement. Pourquoi ce qui est désigné par le mot, par le nom, n'est-il pas le dénominateur commun des déterminations sensibles de diverses réalités se ressemblant? Pourquoi l'universel n'est-il pas le noyau des déterminations communes à toutes les réalités d'un même type? Ça dépend. Il peut y avoir un universel qui relève uniquement de cela. Tous les oiseaux blancs sont dans la même catégorie. Ça, c'est les qualités sensibles. Quand vous dites quand même corbeau comme animal blanc, n'est-ce pas, vous dites autre chose. Parce que vous saisissez dans l'animal autre chose que telle ou telle qualité. Donc c'est la signification, c'est le problème de la signification qui peut seul répondre ça. Les dénominations sensibles, les déterminations sensibles n'expriment pas la signification. Il faut comprendre que l'universel... Donc, vous voyez, il peut y avoir un universel qui est tout simplement quelque chose de très général, alors qui est une accolade. Ce que nous faisons très souvent, du reste. Alors, on universalise, on généralise, mais on ne saisit pas la réalité. Saisir la réalité, c'est la signifier. Et alors, à ce moment-là, on saisit bien plus que les déterminations extérieures. Ce qu'il faut, autrement dit, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le genre. Quand vous dites « animal », vous exprimez quelque chose. Il faut réfléchir sur qu'est-ce qui est exprimé par « animal ». Et vous verrez que ça ne peut pas se ramener à détermination sensible. Enfin, venir des choses très élémentaires, hein, sur lesquelles on n'a jamais réfléchi. Mais le mot « animal » signifie quelque chose. Il signifie une réalité vivante, et vivante de telle ou telle manière. Pas uniquement comme une plante. Eh bien ça ne relève pas d'une détermination sensible. Ça relève d'un certain type particulier de se mouvoir. Et donc ça ne relève pas d'une détermination sensible. Donc l'universel générique ou l'universel spécifique ne peut pas se ramener à une détermination sensible. Il signifie autre chose. Il signifie un type particulier d'animal ou de réalité. C'est ça qu'il faut réfléchir. Donc il faut réfléchir sur le point de vue de la signification des mots. Et vous verrez qu'en réfléchissant sur la signification des mots et que vous êtes en présence d'une signification générique, vous n'êtes pas au niveau des déterminations sensibles. prenez, faites vous-même l'exercice, parce que ça, c'est vous qui devez le faire. Hein. Faites vous-même l'exercice. Quand vous dites animal, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Tandis que quand vous décrivez, j'ai rencontré un animal de telle longueur, j'ai rencontré un animal de telle couleur, j'ai rencontré un animal de tel poids, tout ça, c'est descriptif. Ça ne s'exprime pas par la signification d'un mot universel. Il faut comprendre la différence qui existe entre la description et signifier quelque chose d'une signification universelle. Ça, c'est en réfléchissant sur la signification des mots. Et c'est en réfléchissant sur la signification des mots que vous voyez qu'il y a une signification générique, une signification spécifique, une signification propre, une signification accidentelle. Il faut découvrir ça. Et découvrir ça tout simplement en réfléchissant sur le langage, hein, et sur la signification des mots et des mots simples. Et alors à ce moment-là, vous voyez que la signification des mots simples dépasse les déterminations sensibles. Ça, c'est important à saisir, hein, parce que si on ne saisit pas ça, on ne saisit absolument pas ce que c'est que l'abstraction. C'est-à-dire, on ne saisit absolument pas ce que c'est que l'appréhension. Vous voyez, le passage entre l'aspect descriptif, tout aspect descriptif est lié au sensible et à l'imaginaire. La signification est au-delà de l'imaginaire. Je sais très bien que ce n'est pas commode, hein, étant donné que des quantités ne font pas la distinction. Aristote a fait la distinction face à Platon. Et nous devons, nous, maintenir, du moins, nous devons essayer de le redécouvrir, pas parce qu'on dit ça parce qu'Aristote a dit ça, hein, ça c'est complètement idiot de dire ça. Ça c'est bon pour les examens. Mais en dehors des examens, il faut comprendre. Et donc, en dehors des examens, il faut comprendre la différence qui existe entre décrire et le problème de la signification des mots. C'est une très belle question d'examen. On voit tout de suite si on a pigé là-dessus. Et c'est important. Alors, essayez de comprendre la différence qu'il y a entre la description, qui est toujours singulière. Vous décrivez de mille façons, vous décrivez une part. En écrivant, vous décrivez en faisant un croquis. C'est vous représenter. Toute description peut être représentée. La signification ne peut pas être représentée. Quand un mot signifie quelque chose de générique, vous ne pouvez plus le représenter. Et vous pouvez le penser. Alors, c'est là où vous voyez la différence entre représentation et signification. Entre l'image, qu'on peut toujours représenter, et puis le mot qui a une signification et qui est le fruit de votre pensée. Et c'est élémentaire pour comprendre ce que c'est que le langage, mais c'est très important. C'est très important, ça, de bien saisir la différence entre représentation et signification. Parce que si on ne fait pas cette distinction, on ne comprend pas ce que c'est que le symbole, qui est justement la synthèse des deux. Le symbole signifie quelque chose et représente quelque chose. Donc il y a les deux. Alors, c'est quand même important de comprendre ce que c'est que le symbole. Au point de vue langage poétique, de comprendre ce que c'est qu'un langage symbolique, de le comprendre en l'analysant, justement. Bon, alors nous allons essayer de continuer cette petite analyse, d'essayer de comprendre comment l'appréhension que nous avons découvert à partir du jugement, comprenez bien, je ne l'ai pas reçu directement. Ce que vous avez conscience immédiatement, c'est le jugement. Ça, vous avez conscience immédiatement. Justement, quand vous essayez de chercher, qu'est-ce que c'est que la sensation? C'est un jugement. Qu'est-ce que c'est que la sensation? Qu'est-ce que c'est que la signification? C'est un jugement. L'interrogation, toute interrogation, implique un jugement. Alors, cette interrogation se prend à partir de l'expérience. L'expérience, je la décris. Est-ce que je peux décrire une interrogation? silence. Est-ce que je peux décrire une interrogation? C'est intéressant parce que c'est le premier moment, tu vois. L'expérience, vous la décrivez. J'ai rencontré cet animal étranger, je ne sais pas ce que c'est. Alors vous dites, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça se décrit? Donc le passage de la description à la signification. C'est évident quand vous interrogez, vous voulez savoir ce qu'est-ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est de l'ordre de la signification? C'est pas du tout de l'ordre de la représentation. Autrement, vous direz, représentez-moi ce que vous avez vu. Ah oui, dites, vous représentez-moi ce que vous avez vu. C'est pas du tout la même chose que quand vous dites qu'est-ce que c'est. Quand vous dites qu'est-ce que c'est, vous voulez connaître, savoir sa signification. Tandis qu'au contraire, lorsque vous dites décrivez-moi, faites-vous ça. Et au fond, l'interrogation, qu'est-ce? Et le premier moment de signification. Vous passez de l'expérience à l'interrogation. Bon, l'interrogation implique un jugement. Je peux prendre n'importe quel jugement, mais l'interrogation implique un jugement. Qu'est-ce que c'est que la substance? C'est un jugement. Vous ne pouvez pas le représenter. Donc c'est l'intelligence qui commence à s'ériger comme intelligence par l'interrogation. C'est pour ça que c'est l'éveil de l'intelligence. Si on n'interroge pas, il n'y a pas d'éveil de l'intelligence. Vous êtes des êtres rampants au niveau de l'expérience. Bon, vous décrivez, on sait décrire, tout le monde peut décrire. Interroger, c'est déjà interroger de façon intelligente. Hein. Interroger de façon intelligente, c'est déjà pas si commode que ça. C'est pour ça que c'est un excellent exercice, quelquefois, d'interroger. Parce que justement, d'essayer de comprendre et d'écrire ces interrogations et de les relire pour voir si ça signifie quelque chose. S'il y a une signification, si ça signifie quelque chose, l'interrogation doit signifier quelque chose. Une interrogation qui est mal posée ne signifie rien. Mais elle retourne sur l'expérience. Elle décrit. Donc elle n'est pas une interrogation. C'est l'intelligence qui signifie. Bon, nous avons vu qu'à partir du jugement, le jugement ou l'interrogation, peu importe, toute interrogation est composée. Elle n'est pas simple. Je n'interroge pas, c'est ce qu'Aristote dit, interroger ça. L'homme est-il l'homme? Ça ne signifie rien. L'homme est-il l'homme? Non, parce que l'homme est l'homme. Donc vous n'interrogez pas quand vous dites l'homme est-il l'homme? C'est une mauvaise interrogation, n'est-ce pas? L'homme est-il l'homme? Non, c'est simple. Toute interrogation est complexe. Tout jugement est complexe. Et tout jugement implique une appréhension. Et l'appréhension est le premier moment de la signification. Donc, dans le jugement, il y a une certaine signification. Cette signification provient de l'appréhension. L'appréhension, c'est l'élément. C'est l'élément du jugement. C'est-à-dire que le jugement présuppose l'appréhension. Mais comprenons bien que le jugement n'est pas et ne peut pas être une simple addition d'appréhension. C'est Occam qui dit ça. Et à partir d'Occam, ça a été répété. Toujours, quand on est dans une ornière, ça se répète. Alors il faut remonter à la source de l'ornière, hein, pour avoir l'ornière bien faite. Parce qu'après, c'est usé, on ne voit pas. Tandis que là, alors on dira, le jugement, c'est tout simplement plusieurs appréhensions. On additionne. C'est pas ça. Le jugement a quelque chose d'unique. Et nous le reverrons, ça. Il a quelque chose d'unique, parce qu'il regarde la réalité expérimentée. Où il interroge. Ce n'est pas l'appréhension, c'est quelque chose d'autre. Alors, le jugement implique une appréhension comme un élément, mais le jugement dépasse l'appréhension. Donc, le jugement va impliquer une appréhension. Qu'est-ce que c'est que cette première opération élémentaire, dont le signe m'est donné dans le langage à propos des termes simples comme animal? Dans le langage, je peux dire animal. Normalement, ça signifie quelque chose pour moi, animal. Locomotive, pain, ça signifie quelque chose. Ça a une signification, ces termes simples. Ces termes simples expriment comme mon intelligence saisit quelque chose quand elle dit pas. Elle saisit quelque chose. Alors qu'est-ce qu'elle saisit ? Elle saisit quelque chose de simple, quelque chose d'un, au niveau intelligible. Quelque chose de simple. Qu'est-ce qu'il y a de simple dans l'intelligibilité ? C'est justement ce qu'on appelle l'acuité. L'acuité, c'est l'intelligence dans sa simplicité. C'est ce qu'il y a de plus simple dans l'ordre de l'intelligibilité. C'est quelque chose d'indivisible. Donc c'est quelque chose de simple. Alors évidemment, il y a des quantités de termes simples. Il suffit de voir tout simplement que l'appréhension saisit des termes simples. Et elle exprime ça dans le langage, c'est un terme simple, qui a une signification ou générique, ou spécifique, ou propre, ou accidentelle. Vous voyez tout de suite, les significations des cinq prédicables se rattachent aux diverses modalités d'équidité. Donc c'est quelque chose de très fondamental, vous voyez, les cinq prédicables. Puisque ça se rattache de fait aux cinq manières dont je touche la réalité. Alors évidemment, il y a une question très importante qui ne s'est jamais posée. Du moins, je ne l'ai jamais vu poser. Pourquoi cinq prédicats ? Vous comprenez bien. Pourquoi cinq prédicats ? Je constate que les termes simples que je saisis, animal, homme, blanc, marchand, ces significations sont multiples et sont ou génériques, ou spécifiques, ou propres, ou accidentelles. Comment se dit qu'il y a cinq prédicats ? Ce qu'on appelle les prédicats, cinq prédicats. Ça, nous y reviendrons après, parce que ce serait intéressant à voir, parce qu'il y a ça qui est donc cinq modalités d'appréhension. Puisque je vois que, de fait, l'appréhension qui saisit l'acuité est quelque chose de simple, et la signification se présente à moi de cinq manières. Il y a donc cinq manières d'appréhender. C'est quand même curieux. Cinq manières de définir ce que la définition exprime, l'intelligibilité première de la réalité. Et l'appréhension saisit cette intelligibilité fondamentale première, simple. Donc j'appréhende cela. Définir quelque chose. Définir, s'appréhender. Donc cette opération que je découvre à partir du jugement, que je dévoile à partir du jugement, c'est une opération qui m'apparaît simple. C'est pour ça, si elle est simple, elle est indivisible, je ne peux pas monter au-dessus. Pas possibilité de remonter au-delà de l'appréhension. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez, l'intuition est quelque chose de plus complexe que l'appréhension. Psychologiquement, on dit toujours que c'est l'intuition qui est plus simple, mais pas du tout. Qu'est-ce qui est plus simple ? C'est l'appréhension. Mais je n'en ai pas immédiatement conscience. Quand j'ai une intuition, j'en ai conscience. Je suis très content. Je suis intuitif. Ça, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, je suis intelligent, je ne savais pas. Tandis que l'appréhension, vous n'avez pas une conscience directe. Et c'est bien ce qu'il y a de premier, de plus élémentaire dans la vie de l'intelligence. L'intelligence saisit les fluidités, elle les appréhende. Elle les appréhende. Quand je dis qu'elle les appréhende, qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'elle les saisit et les appréhende ? Elle s'assimile. Elle s'assimile l'intelligibilité des réalités qu'elle expérimente. Pourquoi je dis elle se l'assimile ? Alors ça c'est le passage de la constatation de cette opération à sa manière propre d'opérer, en disant que c'est une assimilation. Pourquoi je dis que c'est une assimilation ? Parce que quand je connais animal, je possède au-dedans de moi la signification d'animal. Et je suis complètement indépendant de tous les animaux que j'ai vus, que j'ai constatés. Quand je dis animal, je ne suis pas du tout dépendant de l'animal qui est là présent. Bon, je peux dire animal, même s'il n'y a pas d'animaux que je vois maintenant. Je peux dire animal. Tandis que quand je dis cette fleur est rouge, je sais très bien que si elle n'est pas là présent, je répète quelque chose que c'est tout à fait différent. Parce que là, je désigne une réalité existante singulière. Tandis que quand je dis animal, je donne une signification universelle. Au-delà de tous les animaux présents. Donc, je possède la signification d'animal. Je me suis assimilé cela. Parce que je la possède. On me possède pour ce qu'on assimile. Au sens très fort, ça fait partie de mon bien. Je l'ai assimilé. Parce que je possède cette signification. Cette assimilation est une assimilation intentionnelle. Ça, je peux dire tout de suite. Pourquoi c'est une assimilation intentionnelle? Parce que précisément, quand je connais animal à partir du petit chat, ou à partir tout simplement de l'homme, je peux connaître l'animal à partir de l'homme. Normalement, j'ai connu plutôt l'animal en dehors de l'homme. Et puis après, en comparant le chat et l'homme, j'ai dit qu'il y avait des griffes semblables, hein, et qu'il y avait une manière particulière de manger semblable. Et donc il y a quelque chose qui apparente le chat avec l'homme, c'est vrai. Il y a quelque chose qui apparente. Mais quand je connais le chat, quand je connais l'homme, je ne me change pas parce que je le connais, mais je suis changé parce que je le connais. C'est ça l'assimilation intentionnelle. C'est ça que je veux dire par assimilation intentionnelle. Je suis modifié moi-même par ce que je connais. Puisque je le possède au-dedans de moi-même, mais je ne modifie pas la réalité que je connais. Quand vous connaissez, assimilez quelque chose intentionnellement, c'est-à-dire intellectuellement, vous ne le modifiez pas. C'est déjà vrai pour la connaissance sensible. Quand je regarde une rose, je ne modifie pas la rose parce que je la regarde. Cette rose peut être regardée par 100 personnes, elle n'est pas modifiée. Et c'est toutes les personnes qui la regardent qui sont modifiées. Quand 100 personnes regardent un singe, les 100 personnes qui regardent le singe sont modifiées par le singe, mais le singe n'est pas modifié. C'est très étonnant, ça. C'est pour ça que de temps en temps, il faut se mettre à la place du singe, c'est beaucoup plus intéressant. De voir les 100 personnes qui sont changées. Parce que les 100 personnes sont changées par le singe qu'ils regardent, alors que le singe n'est pas changé. Donc, il faut comprendre que l'assimilation intentionnelle, il faut comprendre que c'est une assimilation intentionnelle parce que je ne modifie pas la réalité que je connais, mais je suis modifié, transformé par cette réalité. Je possède quelque chose en plus. Dès que je connais quelque chose de plus, il y a quelque chose en moi de plus. Je possède quelque chose de particulier, assimilation intentionnelle. Quand je dis assimilation intentionnelle, il s'agit de l'expliquer, cette assimilation intentionnelle. Mais je remonte progressivement, hein, à partir de l'expérience. J'ai l'expérience du jugement. Je découvre dans le jugement l'opération antérieure. J'essaie de comprendre quel est le caractère de cette opération. Je dis que c'est une assimilation intentionnelle. Comment peut exister, vous voyez, je passe de ce qu'est cette assimilation au comment. Comment cette assimilation peut-elle apparaître en moi? Je constate son existence, je constate que c'est une assimilation intentionnelle, maintenant je me pose le comment. Donc c'est une autre orientation, c'est l'origine. Comment en moi peut apparaître cette connaissance de animal. Cherchez bien, la première fois que vous avez dit animal, ou la première fois qu'on vous a dit c'est un animal, vous avez formé en vous une certaine connaissance, vous l'avez assimilé. Puis vous avez dit après animal, et quand vous avez dit animal, vous avez bien réfléchi sur ce que c'était. Quand vous avez dit homme, vous savez bien, le gosse, il dit d'abord papa, maman, tous les hommes et les mamans, c'est papa et maman. C'est puis alors, petit à petit, il arrive à découvrir homme. Pas si commode que ça, ce passage-là. C'est un passage extraordinaire, quand même. Si et l'intelligence qui saisit homme. Assimilation intentionnelle. Vous avez assimilé intentionnellement. Papa, c'est descriptif. Homme, c'est une signification. C'est vrai. Parce que le gosse, il a son papa qui a une barbe, puis il rencontre quelqu'un. Tiens, papa, il a perdu sa barbe. Une description. Descriptif, parce que ça, c'est le papa, il doit avoir une barbe, parce que le premier papa, il en a une, et le second, il n'en a plus. Comment ça se fait? Et c'est petit à petit comme ça, au point de vue descriptif, qui laisse tomber la barbe et tous les poils, qu'au bout d'un certain temps, il arrive à homme. Vous voyez? Alors, il arrive à homme. Il arrive à découvrir toutes les choses accidentelles et secondaires, puis on arrive à homme. Très curieux. La multiplicité d'expériences arrive à découvrir homme, le passage de la description à la signification. Il arrive à l'appréhension. Bon, cette assimilation intentionnelle, comment se fait-elle? Elle ne peut se faire que grâce à des formes intentionnelles. On ne peut pas se faire autrement. Puisque cette assimilation intentionnelle est déterminée, elle implique une signification. Toute signification implique une détermination. Donc il faut bien qu'elle soit déterminée. Elle soit déterminée intentionnellement. Elle n'est pas déterminée physiquement, mais déterminée intentionnellement. Et donc si elle est déterminée intentionnellement, je peux dire qu'il y a une forme intentionnelle au point de départ de cette assimilation et une forme intentionnelle au terme de cette assimilation. C'est ce que saint Thomas appelle, dans son jargon propre, et ce que la scolastique a repris, species impressa, species expressa. Il faut le savoir. Ça fait partie du langage qu'il faut connaître. Alors j'écris en grec, puisque c'est plus facile à comprendre. Eidos. Species. Species impressa. Species expressa. Oui, c'est important de voir à quel moment je suis obligé de poser species impressa et species expressa. Je n'en ai aucune expérience. Donc c'est pour ça que c'est si facile de répéter ces choses-là sans rien comprendre. Alors il faut voir pourquoi je les pose. C'est pour expliquer le comment de l'assimilation intentionnelle. Quand j'ai découvert qu'il y a nécessairement en moi une appréhension à partir du jugement, j'ai essayé de comprendre comment se fait cette assimilation. Et je dis que pour que cette assimilation intentionnelle puisse exister, il faut nécessairement poser une forme intentionnelle au point de départ et au terme. Cette forme intentionnelle, elle a été appelée, dénommée par saint Thomas, species impressa, en grec eidos, c'est-à-dire une forme. Species, c'est forme. Il faut traduire en français forme. Il ne faut pas dire espèce. Parce que alors c'est une confusion complète. C'est pour ça que je le grec, parce que ça vaut mieux. Sa forme intentionnelle, impressa, expressa. Alors, comprenez. La species expressa, elle est au point de départ. Au point de départ de cette assimilation. Parce que quand on assimile quelque chose, il faut que la réalité qu'on assimile soit au point de départ de nos opérations vitales et soit au terme complètement assimilée. Donc il faut nécessairement qu'au point de départ de cette assimilation, il y ait une forme intentionnelle qui détermine mon intelligence, puisque c'est mon intelligence qui appréhende. Alors vous voyez apparaître là l'intellect possible, passif, le nous en tant qu'il est capable de recevoir, l'intelligence en tant qu'elle est capable de recevoir, puisque nécessairement, elle reçoit cette species, elle est informée par cette species, elle est déterminée par cette species, par cette forme intentionnelle. Donc je commence, vous voyez l'analyse, hein. Et l'analyse la plus profonde de mon intelligence, l'analyse la plus profonde et la plus radicale de mon intelligence, c'est l'appréhension. C'est donc là où je dois être très attentif pour voir ce que j'analyse, d'où ça vient et comment je suis obligé de le poser. Autrement, je répète sans rien comprendre. Donc, je dis que cette assimilation intentionnelle, si je veux l'expliquer, si je veux l'analyser, implique une forme intentionnelle au point de départ qu'on appellera la species impressa. Et puisqu'il s'agit d'une assimilation, cette forme qui est au point de départ et qui détermine l'intelligence va se retrouver au terme, et c'est ce qu'on va appeler la species expressa. Cette species expressa, c'est ce qu'on appelle d'une manière ordinaire le concept. Vous n'avez pas d'expérience de vos concepts, au sens très rigoureux. Vous êtes obligé de le poser, mais vous n'avez pas expérience de vos concepts. Saint Thomas donc l'appelle species expressa, concept, ou il l'appelle encore verbum. Alors ça, évidemment, c'est le théologien, vous comprenez. C'est le théologien qui a en tête le mystère de la très sainte Trinité. Alors il appelle ça le verbe. Concept, c'est le verbe. Le verbe mental, le verbe intérieur. C'est extrêmement curieux qu'il y a, pour exprimer ce premier fruit, ce fruit intérieur de l'appréhension, ce fruit intérieur de l'intelligence, de cette assimilation intentionnelle, ce fruit, je l'exprime par species expressa, par le point de vue du concept et point de vue du verbe. C'est le fruit intérieur que je porte en moi dès que je conçois quelque chose, dès que j'appréhende quelque chose, je forme au-dedans de moi-même, puisque je signe, une forme intentionnelle. Et cette forme intentionnelle, c'est ce qu'on appelle le verbe. Et c'est cette forme intentionnelle qui est exprimée par la parole animale, chant. Ça exprime la signification première qui est dans cette spécies expressa, ce concept et ce verbe. Donc, c'est pour comprendre pourquoi vous êtes obligé de poser un concept. C'est important parce que des candidats de philosophie vont l'arrêter. Hein. Occam ne dira pas de concept. Et à partir de Occam, on laissera tomber le concept. Et Descartes parlera d'idée. C'est pas la même chose, l'idée et le concept. Alors là, il faut une petite distinction très importante. Hein, parce que chez Hegel, on retrouvera d'une certaine manière idée et concept. Descartes confond concept et idée. Vous voyez là l'emprise de la connaissance esthétique, artistique. L'idée, c'est le fruit d'une inspiration. Et le concept, c'est le fruit de l'appréhension. Quand je suis au niveau de l'idée, je suis au niveau d'une connaissance artistique, poétique. Quand je parle de concept, je suis au niveau de la connaissance intellectuelle dans toute sa pureté. La scolastique dira que le concept est un quod et que l'idée est un quod. Alors avec ça, vous comprenez tout de suite. Le concept est un quod, tandis que l'idée, c'est un quod. Je m'explique. Le concept est un quod, parce que c'est ce par quoi je connais. Mais je ne m'arrête pas au concept. Tandis que l'idée est un quad parce que c'est ce que je connais. Je m'arrête à mes idées. C'est évident. Quand vous avez une idée géniale, vous vous arrêtez. Et vous désirez que les autres s'y arrêtent. Et vous la communiquez tout de suite. Vous ne restez plus dans le silence. C'est les idées qui empêchent de rester dans le silence. Tandis que les concepts ne vous gardent le silence. C'est extraordinaire. Parce que l'idée, c'est ce qui est connu. Et le concept, c'est ce par quoi je connais. C'est pour ça qu'on dira un quand et un quoi. Ça, il faut le savoir. Hein, il y a des choses qu'il faut savoir, parce que ça fait partie d'un certain... Vous voyez, pour, quand on lit saint Thomas, quand vous voyez Spéché, c'est Brésage, il faut tout de suite comprendre. Quand vous voyez concept, il faut tout de suite comprendre. Si chaque fois, vous êtes obligé de dire qu'est-ce que ça veut dire... Alors, là, vous essayez. J'essaie d'en donner l'aspect génétique, puisque c'est le comment. Comment l'assimilation intentionnelle peut-elle exister? Elle ne peut exister qu'en posant des formes intentionnelles qu'on appelle en scolastique et dans saint Thomas species impressa, species expressa, ou le concept, ou le verbe. Je ferme la parenthèse. Eh bien, c'est pour essayer de donner, de développer cette forme intentionnelle. Philosophiquement, ça n'intéresse pas du tout la question du nom. Mais c'est uniquement un point de vue historique. Un point de vue historique, c'est intéressant. Oui. On viendra après, pas tout de suite. Ne prenez pas ça tout de suite. Parce que nous essayons d'entrer dans l'assimilation intentionnelle. Nous essayons de comprendre comment expliquer cette forme intentionnelle qu'on est obligé de poser. Vous n'en avez pas l'expérience et moi non plus. Alors quand on n'a pas l'expérience d'une chose, il faut savoir pourquoi on le pose. On en pose l'existence. C'est pour expliquer cette assimilation intentionnelle. Le gros problème maintenant, c'est de savoir d'où vient cette species impressa, d'où vient cette forme intentionnelle première qui détermine le nous. D'où ça vient? Alors oui, c'est là où vous voyez, est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est une forme a priori? Ou au contraire, est-ce que je l'acquire à partir d'expérience? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas pour rien, quand le gosse apprend à dire papa, il dit à tous ceux qui sont autour de son père, papa. Puis un beau jour, il comprendra qu'il y a homme. Donc il passe de la représentation à la signification. Comment s'est fait ce passage? Comment s'est fait ce passage? De ce qu'il représente et de ce qui implique une signification. Donc, passage de papa à homme. Très simple, hein? Tout à fait élémentaire. Passage de se miner à chat. C'est aussi très cru. Et ainsi de suite. Prenez n'importe quel mot. Il y a toujours une petite expérience. Puis, vous découvrez un mot universel qui a une signification. Comment se fait ce passage? Alors, c'est pour expliquer le passage de l'image, l'icône, qui est de l'ordre de la représentation à la forme intentionnelle que Aristote a posé l'intellect à Jean et que saint Thomas l'a repris. Et que saint Thomas l'a repris d'une façon telle que vous regardez dans le Contra Gentiles, je vous donnerai les références exactes parce que ça vaut la peine d'être vu. Saint Thomas a défendu d'une façon extraordinaire, je crois que c'est ce qu'il a défendu le plus dans toute sa philosophie, l'existence d'un intellect agent. Ça prouve que pour saint Thomas, c'est une pièce maîtresse qu'il faut absolument découvrir ce que c'est que l'intellect agent. Autrement, on ne comprend rien à l'assimilation, donc au jugement, et ainsi de suite. Très curieux ça, historiquement c'est très intéressant à voir ça, et c'est très intéressant aussi. Alors comprenons le bien, comprenons pourquoi je suis obligé de poser et comprenons ce que ça signifie. Ensuite je vois comment Aristote l'a posé et comment saint Thomas a défendu cette position. Il s'agit donc du passage de l'image qui est de l'ordre de la représentation à la forme intentionnelle qui est de l'ordre de la signification. Or, ce passage se fait à partir d'une série d'expériences. Les représentations se multiplient, se purifient. Je vous dis, la barbe dégringole, puis au bout d'un certain temps, tel ou tel détail dégringole, et on s'aperçoit que ce sont des choses accidentelles. Il y a un petit quelque chose qui demeure et qui est l'essentiel. Et à partir de ce moment-là, la signification apparaît. Comment se fait ce passage? Ce passage se fait dans la mesure où je suis attentif à comprendre la réalité. C'est donc au plus intime de moi-même que se fait ce passage. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Je peux bien vous donner l'intelligible, mais pas l'intelligence. Donc, soyez attentif et vous deviendrez intelligent. Et c'est chacun d'entre nous qui fait ce passage de la représentation à la signification. Et c'est chacun d'entre nous qui fait ce passage dans la mesure où on est attentif, dans la mesure où on essaie de comprendre, dans la mesure où on revient souvent sur cela pour essayer de comprendre. Il faut donc dire qu'au-dedans de nous-mêmes, il y a quelque chose actif. Je me meux, je deviens intelligent. C'est moi-même qui deviens intelligent, c'est moi-même qui saisis, c'est moi-même qui comprends. C'est pas quelque chose de l'extérieur. Donc il y a en moi quelque chose qui est capable de faire passer de l'image à la forme intelligible. Ce quelque chose ne peut être qu'au niveau de l'intelligence, puisqu'il s'agit de faire un passage de l'image à la forme intelligible, intentionnelle. Ça ne peut être que l'intelligence, puisque le terme, c'est justement cette forme intentionnelle. Cette forme intentionnelle qui est intelligible. Il faut donc qu'il y ait une lumière capable de l'intérieur d'éclairer l'image, la représentation, et à partir de cette représentation, découvrir, ou si vous voulez, au sens strict, réaliser une forme intentionnelle. Voyez bien ce que l'on pose, parce que je n'ai jamais saisi l'intellect agent en dehors de ses fruits. Et ce sont ces fruits qui m'obligent de poser cette cause. C'est un petit peu analogue, voyez, comprenez bien, un tout petit peu analogue au fait de poser l'existence d'un être premier créateur dans l'ordre existant. Je pose au-dedans de moi-même une source d'intelligibilité, une lumière active, un nous actif, un intellect actif, qui va être au plus intime de moi-même comme une source qui me permet de passer du domaine de la représentation au domaine de l'intelligibilité, dont le fruit sera cette forme intentionnelle, et cette forme intentionnelle avec la forme intentionnelle qui détermine et la forme intentionnelle qui est conçue. Vous voyez, je ne saisis l'intellect agent que par ses effets. C'est normal. Comme une espèce, c'est pas une induction, c'est une démonstration a posteriori, exactement comme pour l'affirmation de l'être premier. C'est pour moi le soleil intérieur au niveau de l'intelligibilité. Je ne peux pas remonter plus loin au niveau de l'intelligibilité, au niveau de la connaissance. C'est une source immanente. Alors vous allez dire, pourquoi une telle complication? C'est vrai, c'est très compliqué de poser ça. Poser Dieu, c'est déjà pas si mal. Hein. Mais ça, je comprends, parce que Dieu, je l'adore. Tandis que là, je ne veux pas adorer mon intellect agent. Bon. Donc alors, pourquoi poser l'intellect agent? Je vous dis, c'est l'analogue, c'est très très curieux. Dans l'ordre de l'analyse de la connaissance, je pose une source première, active, l'intellect agent, que nous avons tous. C'est pour ça qu'on est intelligent. Voilà. C'est plus ou moins actif. Ça, c'est évident. Quelquefois, c'est très enténébré. Pas à cause de nous, du reste, à cause de notre imaginaire, qui est tellement lourd. Alors, on n'arrive jamais à passer à la forme intelligible. On retombe tout le temps sur la représentation. Et dès qu'on quitte la représentation, on perd pédale. Vous voyez, c'est comme les avions, ils sont trop lourds, ils n'arrivent pas à décoller. Alors, ça n'arrive pas à décoller, c'est impossible, c'est trop lourd, l'image est trop lourde, la représentation est trop forte, on n'arrive pas à décoller. Et c'est vrai qu'il y a une lumière intérieure, cette lumière se nous active, que je pose, et je suis conscient de le poser comme une source. Comme une source, c'est-à-dire comme quelque chose qui est un principe relié, un principe actif, de tout l'ordre de l'intentionnalité qui est en moi. C'est la source de toute l'intentionnalité qui est en moi, au niveau de au niveau intelligible. Alors, pourquoi suis-je obligé de poser ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas des positions plus simples? C'est vrai, il faut se poser la question, parce que c'est pas si commode que ça, vous voyez. Quand j'essaie d'analyser...